7h17. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, nos félicitations pour ta nomination au gala artiste.
Ouais, mais je compte Gino, hein. C'est comme être comme prendre pas l'arcan, tu sais. Tu gagnes pas, mais t'es content d'être là, tu sais.
Non, mais sincèrement, on est vraiment fiers de toi. Tant mieux.
T'es gentil.
C'est une bonne nouvelle. Oui, et comme Émilie nous l'a expliqué, tu vas pouvoir déduire et même, comme t'as toi-même précisé, répartir dans le temps ton investissement pour un beau veston.
Oui, mais il faut comprendre que comme ça peut se reporter ailleurs, l'habit masculin est déductible seulement à 50%, tandis que la robe qui se porte juste une fois, elle est plus à 100% parce qu'elle ne se reporte pas à l'extérieur d'un bal ou d'un événement comme ça. Donc, c'est plus facile à déduire à 100%.
Et toi, si tu l'utilises dans 3, 4, 5 activités, donc tu peux, comme on dit, morceler ton investissement. Puis, au terme de ça, dans un encan, le donner une bonne cause, puis ça va te faire une déduction fiscale.
Je n'avais pas pensé à celle-là, Paul.
Ah, tu vois,
mais c'est pas cheap jusqu'à ce point-là.
Non, non, mais tu commences à déteindre sur moi, là.
Puis à la fin, Paul, tu le vends au poids, au village des valeurs.
Exactement. Bon, on va se mettre dans la tête ce matin d'un nouvel actionnaire de Spotify.
Oui, l'actionnaire de Spotify hier, là, quand il investit, est-ce qu'il a évalué l'entreprise? Est-ce qu'il s'est dit, tiens, je vais regarder ça, là, ça vaut près de 30 milliards? Non, il regarde comment ça va en bourse. Donc, hier en bourse, 169 $ à peu près au début, et ça a clôturé à 149. Donc, il y a eu une excitation primaire, et après ça, dans le marché secondaire, on a commencé à baisser. Ce qui est intéressant, c'est de voir où l'actionnaire voit de la valeur, parce que pour l'instant, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de bénéfice. Donc, il voit le gain où il se dit, un jour, Spotify aura beaucoup de monde en Chine. Un jour, Spotify, s'il y a 2 milliards d'utilisateurs de téléphones intelligents dans le monde, il va avoir beaucoup d'abonnés pour le contenu. Et c'est là notre avenir. Mais contrairement à plein de modèles de Silicon Valley où tu dépenses beaucoup d'argent au début, genre Tesla, et que tu le rentabilises sur le futur, Spotify, il y a une différence. C'est qu'à chaque fois que tu vas avoir un nouvel abonné, t'amortis pas juste tes coûts de développement. Faut que tu continues à payer ton droit d'accès à la musique. Et t'es aussi dépendant de 3-4 gros joueurs. Donc, tu sais, par exemple, Universal, Warner et Sony. Donc, si ces gros joueurs-là veulent pas être avec toi, ça détruit complètement ton modèle d'affaires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où on peut aller. Où Spotify peut monétiser sa valeur? On peut aller où? Dans les données. On peut aller un peu comme dans Facebook, commencer à dire, moi, j'ai un utilisateur montréalais de tel âge à tel âge. Il consomme tel type de musique. Il doit aimer tel genre de vêtements. Il sort à tel endroit. Donc, les données peuvent éventuellement servir aussi parce que plus tu as d'utilisateurs, plus tu as le potentiel de la vendre les données. Mais tu as des concurrents. Tu as Amazon, tu as Google puis Apple qui, eux, la musique est un produit complémentaire. Et c'est là que c'est difficile à se battre avec eux parce que Spotify doit faire de l'argent avec la musique. Tandis que les autres gros joueurs chez Amazon ont dit, ben écoute, nous on t'offre un abonnement mensuel puis là-dedans, ben, tu as de la musique. T'sais, Google, c'est un peu pareil. Tu as l'avantage de pouvoir prendre des pertes dans un secteur pour offrir quelque chose de plus global. Donc, l'investisseur d'hier achète du potentiel. Il y a plusieurs questions à y poser. Est-ce qu'il pense que le nombre d'abonnements va augmenter? Est-ce qu'il pense que l'investisseur va payer plus cher? Il pense que ça va devenir le Netflix de la musique? Est-ce qu'il pense que le marché chinois va se développer pour Spotify? C'est à suivre, mais chose
est-ce que Spotify pourrait diversifier son offre et pas faire que de la musique?
Pourrait, tout à fait. La question, c'est dans quel domaine et où on pourrait être leader par rapport à d'autres?
Ouais,
parce que pour l'instant, on a l'an passé là, près d'un milliard d'euros en frais de financement, donc c'est beaucoup d'argent. J'ai hâte de voir, Paul, mais pour l'instant, il y a des gens qui achètent en bourse. Je n'étais pas du nom, mais il y a des gens qui ont acheté.
Quatre raisons pour lesquelles l'acheteur immobilier pourrait être patient en 2018.
Oui, là, il y a beaucoup de jeunes comme moi, tu sais, Paul, des gens en bas de 40 ans qui veulent s'acheter une maison, puis ils sont bien découragés parce que là, ils viennent pour faire une offre d'achat, puis il y a de la surenchère, puis ils disent, coudonc, ça va-tu toujours monter? Bien, il y a quatre facteurs qui peuvent rassurer les acheteurs d'aujourd'hui. Premièrement, ou les futurs acheteurs, de dire, écoutez, il va y avoir un resserrement des conditions de crédit. Donc, présentement, les gens qui achètent n'ont pas les mêmes conditions qu'il y a 15 ans. Tu sais, avant, tu pouvais acheter une maison, il y a quelques années, là, sur 40 ans, 35 ans, 30 ans. Là, ce n'est plus possible. Donc, évidemment, ça fait en sorte qu'il y a moins de monde qu'avant qui peuvent acheter une maison. On a aussi dit, les gens devront être capables de payer le taux de gré. C'est-à-dire, pas le taux négocié, mais le taux de gré des 5 dernières années pour emprunter. Donc, même si tu négocies ton prêt à 3,14%, faut que tu démontres que tu payes 5,14%. Donc, ça limite le nombre de personnes qui peuvent acheter. Deuxième point intéressant, Paul, la courbe démographique. Parce que chaque décès est une opportunité de marché. On en parlait hier avec des auditeurs, ils trouvaient ça un peu cynique, mais je leur disais, allez sur Kijiji puis tapez succession, il y a plein de choses à vendre pas cher, mais c'est la même chose pour les maisons. La courbe démographique des 65 ans et plus est importante. Depuis 2017, il y a plus de gens de 65 ans et plus que de jeunes au Québec.
Vraiment dit, il y a plusieurs années, c'était les cas de divorce, puis maintenant, c'est les décès.
Il n'y a toujours pas une option. Il y a aussi les maisons de retraite. Tu sais, tu t'en vas vers la maison de retraite, là, pas toi. Mettons, moi, je m'en vais aux mes parents un jour, mais ça veut dire qu'il y a une maison qui se libère.
C'est sûr.
Il y a un appartement qui se libère. Donc, c'est intéressant pour un jeune de dire, ben là, il y a de l'offre qui va arriver sur le marché parce qu'on l'avait prédit il y a bien longtemps, mais les boomers sont restés chez eux. Ils se disent, pourquoi je m'en irais à la maison de retraite à 2000$ par mois quand pour chez nous, je peux me payer des services? Mais il y a un jour où ça va arriver. Troisième point intéressant, les taux d'intérêt semblent augmenter. Là, tu me dis, ouais, c'est bien poche ça pour l'acheteur. Oui, mais ça fait en sorte qu'il y a une pression sur la valeur des maisons à la baisse à ce moment-là, une stagnation. Et finalement, pas le dernier point, mais non le moindre, les salaires des gens suivent pas. Tu sais, tu as 40% des gens au Québec qui déclarent moins de 25 000. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, les prix ont beau monter, mais ça prend du monde pour les acheter, ces maisons-là. Et les salaires ne sont pas au rendez-vous éventuellement. Donc, c'est quatre signes qui font en sorte qu'on peut dire en 2018-2019, il va y avoir un jour des opportunités. Faut être patient puis mettre son argent dans son CELI.
Attendez une vague de décès, puis après ça, vous pourrez magasiner votre maison.
Tu sais, tu vois, tu chiques les avis de décès, tu regardes les quartiers. Il y en a qui font ça, hein?
Ah,
les courtiers immobiliers qui font ça.
Merci, bonne journée.
Salut.
Salut, 7h23.